L'Association des détaillants en alimentation du Québec a tenu encore une fois à son dernier congrès sa soirée hommage. Le temple de la renommée s'est enrichi de plusieurs nouvelles personnalités du monde de l'épicerie, le commerce de détail. Il y a aussi le volet fournisseur. Et cette année, c'est Serge Boeck que l'on a invité à entrer au temple de la renommée. Je me suis entretenu avec lui.
Serge Boeck, je suis le propriétaire et le fondateur de la Petite Bretonne, qui se situe à Blainville, et on a aussi une usine à Joliette.
Il y a quand même un bon moment que vous êtes avec vos produits sur le marché québécois, là.
Ça fait depuis les années 64. Ça va faire 55 ans, si je sais compter.
À peu près ça.
À peu près ça.
Et le marché a dû évoluer. Autant votre production a dû aussi évoluer.
Oui, parce qu'au début, j'ai commencé par faire des madeleines. Et comme j'avais 16 ans, je les faisais dans le four familial. Je cuisais 12 madeleines à chaque batch que je faisais. C'est-à-dire que je les emballais dans un petit sac, puis j'allais les vendre dans les petits supermarchés. Bien, pas les supermarchés, mais les magasins spécialisés, comme les fruiteries, comme chez Vanout et tout ça. Et j'ai commencé comme ça. Et ça a évolué avec le temps. Mais la madeleine n'a jamais, jamais décollé. Mais j'en ai toujours fait. Je suis breton de naissance, c'est-à-dire je suis très, très têtu. Et cette année, on va vendre des madeleines en France.
Vous êtes venu ici, au Québec, et vous vendez maintenant des madeleines en France.
Disons qu'on a une commande qu'on va livrer bientôt chez Costco à Paris, parce qu'il y a un Costco depuis très peu de temps. Et on va livrer chez Costco des madeleines au sirop d'érable, aux Français qui font des madeleines à la tonne. Et j'aurais réussi à vendre mes madeleines 55 ans plus tard. Mais entre-temps, j'ai fait autre chose. J'ai inventé le croissant industriel pour mettre dans les supermarchés. Et aujourd'hui, je fais des micro-croissants. J'en fais 50 000 à l'heure, c'est-à-dire 1 million de croissants par jour, en même temps que 1 million de petites chocolatines par jour, en même temps que les madeleines et une ligne de biscuits. Donc, ça a évolué. Puis le marché a évolué aussi.
Les goûts des consommateurs sont allés beaucoup plus vers des produits comme ceux-là aujourd'hui.
Oui, disons que le Québécois devient français de plus en plus et le français devient américain de plus en plus. Aujourd'hui, en France, ils commencent à manger des beignes et des muffins, et ça marche très bien. Donc, les Français d'avant 10 ans vont être très gros.
Mais ils vont manger vos madeleines quand même.
Ils vont manger nos madeleines aussi.
Oui. Donc, là, je me permets de dire ça. Vous êtes d'une grande notoriété dans le monde de l'alimentation. Tout le monde vous connaît. Et vous êtes implanté dans le milieu et impliqué dans le milieu beaucoup. Et c'est peut-être ce qui vous vaut, là, je ne veux pas trop m'avancer, vous me le direz, c'est peut-être ce qui vous vaut d'accéder au temple de la renommée.
Exactement. C'est bien beau d'avoir une business, de faire de l'argent puis de fructifier cet argent-là. Mais si on ne s'implique pas, on ne fait pas partie de la communauté. On n'est pas respecté comme tel. Et on connaît tous des entreprises qui réussissent très bien, mais qui ne s'impliquent dans rien. Nous, on est impliqués partout. Et ma vraie réussite, c'est d'avoir su, sans le dire, communiquer ce message aux employés cadres, à mes enfants. Donc, ces gens-là sont impliqués aujourd'hui, chacun dans leur domaine, dans plusieurs communautés. Ils sont sur des fonds, sur des hôpitaux, sur la Caisse populaire, à l'ADA, au Conseil de la boulangerie, dans le groupe Prestige, ainsi de suite. Et on va jusqu'au Mexique comme ça. Fait que c'est de ça que je suis fier, d'avoir pu, par l'exemple, faire comprendre aux gens qu'on devait s'impliquer. Et on n'est pas perdant, on est gagnant.
C'est sûr, parce que justement, vous y gagnez en notoriété. À la base, bien sûr, vos produits sont de qualité et ça, c'est la condition sine qua non pour quiconque veut produire en agroalimentaire. Mais au-delà de ça, justement, le fait que vous soyez ouvert à tout ce qui se passe dans la société, c'est beaucoup.
Oui, parce qu'on est au front, donc on est mis au courant de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Moi, j'ai toujours fait les shows internationaux depuis que je suis jeune. Donc, je suis au courant de toute la machinerie, de toutes les tendances. J'ai fait les shows, puis à une certaine époque, ces shows-là, c'était mes vacances. Et j'ai pris plaisir à faire ça, et aujourd'hui, je le fais encore. Je fais tous les shows internationaux, donc je suis au courant de ce qui se passe. On a chez nous la machinerie la plus moderne au monde. Pourquoi? Parce que je suis présent partout et je m'intéresse à ça. C'est beau de faire un produit, c'est beau d'avoir une qualité, mais il faut le rendre accessible à tout le monde. Et pour ce faire, il faut vraiment être mécanisé. Et chez nous, on est très mécanisé. Et on a une qualité que les autres, beaucoup de compagnies n'ont pas, c'est qu'on est ouvert. C'est-à-dire, on est une vitrine. La preuve, l'usine de Blainville est vitrée. De l'autoroute, on voit la production. Et les employés ne se sentent pas renfermés, ils voient dehors. C'est sûr que ça coûte cher de mettre des vitres partout. Mais c'est tellement agréable pour tout le monde.
Et votre usine, effectivement, une usine modèle, beaucoup de gens dans le monde de l'agroalimentaire vont visiter votre usine et en sont très surpris d'une part, mais aussi très contents de voir l'avancement technologique que vous avez chez vous. Et j'ajouterais à ça qu'il y a beaucoup de politiciens qui se bousculent au portique pour aller chez vous, en particulier en campagne électorale.
Oui, et même après. Il y a un suivi qui se fait après, puis c'est très agréable, parce que là, on s'aperçoit, sans avoir fait exprès, qu'on est vraiment une vitrine et qu'on a bien monté l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est très solide. Parce qu'une entreprise qui monte juste sur les profits, si la base n'est pas solide, tôt ou tard, on risque d'avoir des problèmes. On a même chez nous des multinationales, 100 fois, 1000 fois plus riches que nous, qui viennent voir chez nous comment on fait. Comment on a fait au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la sécurité informatique, au niveau des robots qui travaillent, et comment on a formé nos employés pour faire marcher ces robots-là. Parce que les employés, quand ils sont dans une usine de production, ça ne sort pas de l'université. Donc, il faut leur donner des cours. On leur donne des cours de français, des cours d'anglais, des cours d'espagnol et des cours qu'ils ont besoin. Des cours d'informatique aussi. On a une équipe qu'on va envoyer bientôt à Charlotte chez le groupe Schubert, qui est une compagnie qui fait des robots en Allemagne, qui a une notoriété incroyable dans le monde. Ce sont les premiers au monde et on travaille avec eux. Fait que c'est important d'être au courant de tout ce qui se passe. On est à toutes les certifications, on est peanut free, on est GFSI, c'est-à-dire des normes de sécurité alimentaire internationale. On est ACEPT par le fait même d'être GFSI. On est CITIPAD, c'est-à-dire antiterroriste pour les Américains. On est kosher. Fait que toutes ces choses-là coûtent une petite fortune. Mais si on les prend à la base, en grossissant tranquillement, on ne s'en rend pas compte. Si on veut mettre tout ça dans une usine demain matin, ça va être très, très difficile. Donc, il faut que les usines commencent à la base à évoluer tout de suite.
Deux questions en terminant. Premièrement, avez-vous de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre?
C'est pas une grande difficulté parce qu'on a toujours mécanisé. Donc, ça sera plus facile chez nous de trouver un employé qui va payer, mettons, 20 $ de l'heure pour appuyer sur des boutons, que de trouver un employé à 15 $ de l'heure qui va faire des gestes répétitifs toute la journée. Donc, on a déjà une avance sur les autres. Et nous, ce qu'on fait pour la main-d'œuvre, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on s'est occupé de nos employés. Moi, mon travail, c'est de m'occuper des employés pour qu'ils soient bien. Donc, j'ai une très bonne rétention d'employés. Les employés chez nous ne sortent pas. Je passe mon temps à aller acheter des montres pour 10 ans, un certificat cadeau pour 20 ans, 30 ans, et les retraités. Et en ce sens, j'aimerais bien que le gouvernement comprenne que si il nous écoutait, on aurait du personnel qualifié dans nos usines dans 5 minutes. C'est-à-dire que si les heures supplémentaires payées en double ne seraient pas assujetties à l'impôt, on enrichirait nos gens, on aurait du personnel qualifié dans 5 minutes, on récupérerait nos employés retraités qui ne paieraient pas d'impôts en venant travailler chez nous pour former notre main-d'œuvre, et tout ce monde-là irait dépenser leur argent et paierait 15 % de taxes.
Le message passe.
Merci beaucoup.
Une dernière. Vous avez de la relève?
Oui, j'ai de la relève. J'ai ma fille, j'ai mon fils. Mais comme mes enfants étaient jeunes, je n'ai pas attendu qu'ils viennent parce que je ne savais pas s'ils seraient venus dans l'entreprise. Donc, j'ai formé deux autres personnes qui sont toujours avec moi. Donc, ces deux autres personnes font partie de la relève aussi. Ce sont des étrangers, mais pour moi, ce sont mes enfants pareils.
Une relève mixte?
Exactement. Parce que ça prend un peu de tout pour faire quelque chose. Parce que toutes les idées sont bonnes, on les met ensemble et la discussion va réussir à avoir un bon résultat.
Bien, M. Boeck, merci beaucoup. Et puis, félicitations pour votre admission au Temple de la renommée de l'Association des détaillants en alimentation du Québec.
Merci beaucoup. C'est une très belle reconnaissance puisque ça vient directement de nos clients. Et ça, c'est une très belle reconnaissance. On en a eu plusieurs, mais celle-là, elle est spéciale. Mais ce n'est pas une fin pour nous, pour moi. C'est un début. C'est pas fini, on continue.
Vous allez de début en début, vous?
Oui, parce qu'on vient de réinvestir cette semaine 10 millions de dollars encore dans la robotisation, puisqu'on a des contrats qui défilent à travers le monde. Et puis, on est rendu qu'on vend au Mexique, on vend au Chili, on vend dans les Caraïbes, on vend aux États-Unis, on va vendre à Paris bientôt. Et de Paris, on va aller à Tokyo, puisqu'on a déjà des commandes. Et c'est juste un départ.
Mais encore une fois, félicitations, puis merci pour tout ce beau travail dans le monde de l'alimentation. Et ça, je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour l'ensemble des gens du secteur agroalimentaire québécois.
Merci, mais au Québec, on a une terre très fertile pour faire des entrepreneurs. On a tout ce qu'il faut au Québec. Donc, on doit avoir des usines au Québec. Puis il ne faut pas penser faire des usines ailleurs. C'est au Québec qu'on est le mieux pour travailler, le mieux pour vivre, puis le mieux aussi, j'espère, pour dépenser le fruit de notre revenu. Au lieu d'aller porter l'argent aux États-Unis, bien qu'on reste un peu au Québec et qu'on enlève l'impôt successoral familial. Je passe des petits messages comme ça.
Oui, oui, oui.
Parce que je vois les fermes qui s'en vont, je vois les entreprises qui s'en vont et je vois la sollicitation des étrangers chez nous. Il n'y a pas une semaine que je ne reçois pas une lettre d'un fonds étranger qui veut acheter la Petite-Bretonne. Mais qu'on enlève l'impôt successoral familial et qu'on taxe énormément quand on vend aux étrangers, on va régler beaucoup de problèmes.
La politique, ça ne vous intéresse pas?
Pas du tout, parce que c'est pas en politique qu'on fait quelque chose, c'est quand on est en arrière.
Vaut mieux pousser que se faire pousser.
Exactement.
Bien, Monsieur Boeck, encore une fois, félicitations et merci beaucoup. Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Et pour ce qui est des détaillants, plusieurs intronisations ont été faites donc. Marcel Laroche de Métro Laroche de Laurier Station et Saint-Étienne de Lauzon, qui avait pris la relève de son père Luc, qui a lui-même exercé son métier d'épicier de porte en porte avec un vieil autobus. Aujourd'hui, Guillaume et David, fils de Marcel, de même que Régis Bergeron et Daniel Laroche, constituent la relève de l'entreprise Métro Laroche. Aussi admis au Temple de la Renommée, Raymond Proulx, qui au cours des années est passé de Steinberg à Dominion et à Provigo et L'Aublat. Et il a bien sûr été épicier à Montréal-Nord, mais également formateur pour des directeurs de magasins. Entre autres, il a fortement contribué à l'ouverture de 4 magasins écoles pour Provigo au Québec. Maintenant, un trio de nouveaux membres du Temple de la Renommée de l'ADA. Gérald Lambert à titre posthume et ses fils Bruno et Luc des IGA Lambert en Montérégie et en Estrie. Dans la famille, on est dans le commerce de l'alimentation depuis 1873, 146 ans. Le secret des Lambert, on est dans le commerce de détail parce qu'on aime les clients et aussi jamais nos magasins n'ont perdu leur saveur locale. Dernière intronisation, celle de François Roberge, des marchés Richelieu de Sillery et Bréquiville. François Roberge avait acheté sa première épicerie à 22 ans, à Beauport, commerce qu'il a revendu pour se concentrer sur le magasin de Sillery et ensuite acquérir celui de Bréquiville, sur la rive sud de Québec. Le métier n'est pas facile et le contexte d'affaires évolue beaucoup avec de la concurrence partout. Mais François Roberge dit aussi que pour lui, le bonheur est dans l'épicerie. Ici Lionel Levac, je vous reviens bientôt avec d'autres éléments du 64e congrès de l'ADA. Au revoir.